Devant le public de Bucarest, le réalisateur Cristian Mungiu avoue avoir d'abord rêvé de devenir écrivain. C'était son intention dans les années 80, lorsqu'une carrière dans le cinéma était difficilement envisageable pour un jeune Roumain. Il avait donc commencé à mettre sur papier toutes sortes d'idées, dont notamment les souvenirs de sa grand-mère, comme il le raconte.
Qu'est-ce que je peux faire pour ma grand-mère? Parce que je l'aimais beaucoup, elle m'aimait beaucoup, je parlais avec elle. Et je me suis dit que l'écouter, ça lui va faire du bien. Et peut-être écrire toutes les choses qu'elle se souvenait encore, ça c'est toujours quelque chose qui est bien de faire. Pour moi, je considérais aussi pour elle et pour mes enfants que je n'avais pas encore. Et je commençais à parler avec elle d'une autre façon, d'une façon, disons, assez systématique. Et j'ai noté tous les petits moments qu'elle se souvenait, mais absolument tout. Je demandais des questions, j'ai noté, j'ai essayé d'entrer dans les détails. C'était quoi le temps dans ce jour-là? T'étais où? Tu regardais quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient les autres? Quels sont les petits moments que tu te souviens? Et avant la fin de mes études de cinéma, j'avais écrit un petit texte et ça c'était tout. J'ai écrit ça juste pour elle, pour moi, et ça a resté dans un tiroir pour une vingtaine d'années.
Des souvenirs qui peut-être seraient à jamais restés loin des yeux du grand public si la guerre en Ukraine, pays voisin de la Roumanie et de la République de Moldova, n'avait pas éclaté.
Il y a 2 ans, 3 ans, quand la guerre en Ukraine a commencé, ce jour-là, je sentais ce que je crois qu'elle a senti ma grand-mère quand tout d'un coup, elle a écouté cet ultimatum à la radio, une petite nouvelle comme ça, et la vie était complètement changée. Et comme vous vous souvenez, les gens ont commencé à demander des passeports. Je connais des familles qui sont partées parce que tout d'un coup, les gens comprenaient que si tu vis à côté d'un grand empire, ça va rester pour toujours. Et alors, dans cette période-là, je me suis dit que peut-être que ce texte qui a été écrit pour moi, pour nous, pour ma famille, pour mes enfants, peut en même temps devenir un texte public pour les autres gens pour lesquels je crois que c'est bien de s'intéresser de l'histoire de leur famille, de parler avec nos parents, avec nos grands-parents, de les écouter et d'apprendre qu'elles sont pas seulement en Russie, mais aussi de les écouter, quelle était leur vie à eux, parce que ça leur donne beaucoup de sens à la fin de leur vie.
Le public venu au lancement du livre en français de Cristian Mungiu a aussi eu droit à un petit moment de lecture.
L'après-midi, grand-mère sommeillait parfois dans son fauteuil convertible. Elle s'endormait après le déjeuner, mais elle n'allait jamais dans son lit pour faire une sieste. On aurait dit que cela ne se faisait pas de dormir confortablement sous les couvertures. Grand-père entrait du jardin où il travaillait tous les jours autour de l'école. Il laissait ses chaussures de jardin à la porte, entrait doucement dans le séjour et il lui posait la main sur l'épaule.
Hey, tu dors? Écoute, tu dors? Non, je dors pas. Non, maintenant je dors pas.
Grand-mère se levait alors et lui apportait la bassine en fer blanc avec une serviette et du savon. Elle chauffait de l'eau sur la gazinière, puis elle la versait brûlante sur l'eau froide. Elle passait la main dedans pour la tester jusqu'à ce qu'elle soit à température. Elle le savonnait, et ensuite grand-père se lavait en se frottant un pied contre l'autre dans la bassine. Souvent, quand il avait fini, il lui tendait ses pieds pour qu'elle les lui sèche. Il avait du mal à se pencher. Mais il n'avait rien de déplacé dans tout ça. Cela avait toujours été ainsi, et telles étaient les relations entre un homme et sa femme dans cette génération. Le soir, grand-père descendait à la cave tirer du vin. Il avait sa mesure. Une petite bouteille de lait en verre d'1 demi-litre avec un opercule en alu. Cela contenait exactement 3 verres de vin. 2 pour lui et 1 pour elle. Ça lui semblait absolument équitable. Et à elle aussi.
Vous avez beaucoup parlé de votre grand-mère. Vous avez décidé de lui consacrer tout un livre. Vous avez commencé à noter tout ce qu'elle vous racontait depuis 30 ans déjà. Pourquoi pensez-vous que ce type de lien se tisse entre une personne et sa grand-mère?
J'ai une explication pour ça, parce que tes parents, moi je suis parent maintenant et je sais que tes parents ont l'obligation de t'éduquer, de te dire pas seulement les plus bonnes choses, mais aussi d'essayer de te faire les choses que tu dois apprendre à faire. Et alors l'éducation est beaucoup liée avec les parents, car les grands-parents peuvent déjà se permettre à être un peu plus doux avec toi, à faire tout ce que tu désires. Ils n'ont pas l'obligation de t'éduquer dans ce sens-là. Et c'est comme ça que tu ressens beaucoup, beaucoup de chaleur de leur part. Et c'était le cas pour moi aussi.
D'accord. Et c'est le cas, je pense, de beaucoup de personnes de notre génération. Et surtout les enfants qui sont nés dans les années 70, 80, 90 même. Ils ont passé beaucoup de temps chez leurs grands-parents à la campagne. Donc c'est quelque chose qui est valable pour une bonne partie des Roumains, en fait.
Je crois que ça fait partie de notre façon d'être ici en Roumanie. Je crois que nous sommes assez proches avec nos familles. Pour moi, c'était un peu particulier parce que je n'avais pas de grands-parents à la campagne. Mes grands-parents vivaient dans la même ville que moi. Et j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle. Et comme ça, je les voyais tous les jours. Et j'ai mangé chez eux tous les jours. Et ils cuisinaient pour moi et pour ma sœur tous les jours et pour toute notre famille. Et alors, on avait une relation assez spéciale. Et chaque fois, quand je me retournais chez moi à Yage, d'où je partais il y a une trentaine d'années, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère, je parlais avec elle. Et elle n'avait pas trop de choses à me dire de nouveau, mais seulement passer le temps avec elle, ça nous rassurait qu'elle existe encore et qu'on se sent proche l'un de l'autre.
En regardant les vidéos que vous avez montrées lors de ce lancement, je me suis rendu compte que on ne peut pas avoir l'authenticité d'une personne si importante pour vous ou pour une autre personne, un membre de sa famille, avec un acteur qui joue un rôle. Il faut présenter la personne, il faut la laisser parler comme vous l'avez fait. C'est la raison pour laquelle vous avez opté pour un livre et pas pour un film ?
Nous avons plusieurs raisons pour ça. C'est aussi parce que dans un livre, tu parles vraiment d'une personne qui a existé et qui était importante pour toi. C'est le cas pour moi ici. Je ne voudrais pas du tout changer les choses que ma grand-mère se souvenait. Et ça, c'était, comme j'ai dit, un livre pour mes enfants. Pour passer l'information pour mes enfants, l'histoire de la famille. Et même quand je me suis décidé de publier ce livre, ça a resté dans la même forme, sans rien inventer. Oui, je suis tenté par faire un film un jour, mais pas sur ma grand-mère. Ça peut rester seulement dans un petit documentaire avec les images que j'avais enregistrées dans les années 90, disons. Mais si jamais je fais une série ou un film fictionnel, la fiction a une autre façon pour la construction. Tu as besoin de changer, d'avoir des raisons narratives pour lesquelles les personnages agissent et dans ce sens d'une simplification. Et alors, je suis intéressé par raconter cette histoire sur la Bessarabie, sur les gens qui continuent à vivre dans le même endroit, mais ils se retrouvent dans des pays différents, dans une période historique, sans avoir aucune affaire avec ces décisions qui sont prises dans la grande histoire. Peut-être qu'un jour, je peux faire ça, mais ça sera plutôt un livre inspiré par ma grand-mère et pas sur elle.
En écrivant ce livre, est-ce que vous avez voulu inviter les gens à mieux connaître leurs racines ou leur histoire, ou les deux ?
Les deux, je crois. C'est important que chacun découvre l'histoire personnelle de sa famille. Moi, j'étais dans un petit tournoi avec ce livre et je présentais ce livre dans plusieurs villes de Transylvanie. Et là-bas, je parlais avec beaucoup de gens qui me disaient « j'ai ce sort d'histoire dans ma famille, mais seulement que cette histoire est avec l'Empire autrichien. » C'est pas vraiment important quels événements de la grande histoire ta propre famille était associée. C'est important que tu connaisses ce qui s'est passé à eux. Et comme ça, tu peux connaître une partie de la histoire de ce pays en même temps. Et ça peut te donner l'envie de vraiment t'intéresser un peu plus. Parce que beaucoup des choses qui nous arrivent aujourd'hui sont la conséquence de toutes les choses qui se sont passées dans notre histoire ici, entre trois grands empires parmi lesquels on essayait de survivre.
Vous écoutez Radio Roumanie Internationale.
En juin 1940, suite à l'ultimatum de l'URSS, les habitants de la région de Bessarabie, actuelle République de Moldova, ont eu 72 heures pour décider de rester et accepter l'occupation soviétique ou bien de quitter sur le champ leur région pour se rendre en Roumanie voisine et tout recommencer à zéro. Une décision qui allait changer leur vie pour toujours et celle de toutes les générations futures.
Il nous devait faire un commissariat.
Tout ce drame est le résultat de cet ultimatum quand l'Union soviétique en 1940 a décidé de forcer d'obliger la Roumanie de céder ce territoire, cette partie de la Roumanie, parce que comme vous savez, nous avons entré dans la guerre de la partie de l'Allemagne. Et alors pour les familles romaines qui habitaient là-bas, en Bessarabie, au tout début ils ont 48 heures, mais à la fin c'était 24 heures, pour prendre la plus importante décision de leur vie, s'ils restent ou s'ils partent. Tu n'es jamais préparé pour une situation pareille. Ce qui était pour moi fascinant dans cette histoire est que je parlais avec ma grand-mère dans les années 70 et 80, et quand j'étais enfant, je ne comprenais pas pourquoi chaque fois quand elle disait « chez nous, à la maison », elle parlait toujours à cet âge-là de cette maison à elle qu'elle avait perdue quand elle était adolescente, jeune, et pas de cette maison à nous où on vivait ensemble. Et peu à peu, elle a commencé à nous raconter toutes les histoires de sa jeunesse. Elle parlait d'une très grande douleur, d'un moment essentiellement tragique de sa vie, quand sa famille a pris la mauvaise décision. Sa mère était vraiment très 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 attachée aux objets. Cette impression qu'elle est toujours vivante était aussi amenée par ces idées qu'elle était propriétaire de beaucoup de choses. C'était une période quand avoir des objets était vraiment très important parce qu'elle avait deux filles et les filles ne pouvaient pas se marier sans avoir une dot assez importante. Mais dans ce moment, en juin 1940, la mère de ma grand-mère était dans cette position d'avoir une décision, de prendre une décision sur ce qu'ils vont faire. Et elle a bien décidé qu'ils vont partir. Mais après que ce procès a commencé, après qu'ils ont essayé de sauver tout ce que tu peux sauver, de tout ce que tu avais amené dans toute ta vie, elle a vu tout de suite qu'elle ne pouvait pas prendre même une petite fraction de tout ce qu'elle avait là-bas. Et alors, elle a changé la vie et elle a décidé qu'elle doit rester. Et toute la vie de ma famille était influencée par ces décisions.
C'est cette histoire qui a marqué à jamais la vie de Tania Ionașcu, la grand-mère de l'auteur. Une expérience de vie que Cristian Mungiu a tenu à partager avec le monde entier en livrant une traduction en français de son roman paru en 2023. C'est ainsi qu'a vu le jour la version française intitulée « Une vie roumaine, Tania Ionașcu, ma grand-mère de Bessarabie ». Au micro de RRI, Cristian Mungiu a parlé de sa décision de faire traduire son livre.
Nous sommes ici à la librairie Kiralina pour le lancement en français de votre livre, la traduction en français faite par Laure Inkel, qui est une grande traductrice de livres roumains surtout. Alors, quelle importance revêt pour vous d'avoir votre livre traduit en français?
Pour moi, c'est vraiment important parce que dans ma carrière, à la fin, c'est la France qui avait un rôle vraiment très important. On doit dire ça que, pas seulement moi, mais je crois que la plupart des réalisateurs de ma génération sont connus dans le monde grâce à ce festival de Cannes qui a décidé un jour, il y a 15 ans, 20 ans, de présenter ce film roumain. Et ça a donné tout d'un coup cette idée que ce n'est pas, on ne parle pas seulement d'un film, on parle d'un mouvement assez important pour l'histoire du cinéma, je peux dire. Parce que tout d'un coup, on avait une sorte de façon assez particulière de raconter. Et peu à peu, même si moi j'ai fait des études d'anglais, la France et la langue française a commencé à avoir un rôle de plus en plus important dans ma vie. Et alors j'étais content que c'était possible que la première langue dans laquelle ce livre était traduit est français. Et je voudrais organiser un petit événement pour la communauté française de Bucarest aussi.
Et la collaboration avec la traductrice, ça s'est passé comment?
Ça s'est passé très bien parce que pour Laure Inkel, ça n'était pas un très grand effort. Elles traduisent les grands écrivains roumains. J'avais seulement besoin de travailler un peu avec elles sur les petits détails qui viennent directement de ce sort de Moldave que ma grand-mère parlait. Bon, c'est toujours le roman, mais avec des mots assez particuliers, avec des expressions un peu particulières. Et nous avons cherché ensemble l'équivalent le plus oral, le plus le plus bon en français pour avoir la grâce de ce sort d'exprimation assez simple de ma grand-mère. Et j'étais très content que, quand j'ai fait ce lancement à Paris, j'ai invité et j'ai réussi à convaincre Virginie et Fira, que je respecte beaucoup, de venir pour ce lancement et de lire et d'être la voix de ma grand-mère. Elle a lu en quelques passages ce livre avec une grande chaleur et j'aimais beaucoup la façon dont les paroles de ma grand-mère sonnaient en français.
Est-ce que par ce livre et par cette idée de parler de la Bessarabie, est-ce que vous pensez que c'est votre mission de faire connaître la Bessarabie qui est une zone méconnue et la République de Moldova qui est un pays tout petit et très peu connu en fait?
Je trouve que ce qu'on doit faire tous est d'essayer d'amener dans ce débat public les histoires oubliées de nos ancêtres, de nos familles, parce que c'est dans les détails très humains où on comprend mieux les malheurs de l'histoire. Pas dans les livres d'histoire où tu as des chiffres sur les gens qui étaient perdus dans les guerres, comme ça. Mais les histoires personnelles te parlent d'une autre façon. Et c'est ça que je crois que les livres et les films peuvent faire, humaniser tout ce sort de souvenirs de l'histoire. Et je trouve que si on peut trouver les moyens pour faire ça, le cinéma est un bon milieu pour ça parce que c'est plus facile pour le petit aujourd'hui que de lire des livres. Il peut commencer par comprendre l'histoire de ce pays en regardant des films et peut-être que ça peut leur ouvrir ce goût pour aussi lire des histoires personnelles et plus tard des histoires sur la grande histoire.
Peut-être plus tard d'écrire ses propres histoires.
Oui, je trouve que c'est vraiment très important d'encourager nos enfants de rester curieux et de connaître l'histoire de leur famille, et pas seulement l'histoire de la famille de leurs parents, mais aussi de leurs grands-parents, parce que ça leur donne un peu les détails sur une évolution qui, sans savoir, influence beaucoup ce qu'ils pensent, où ils vivent dans ce moment et leur avenir aussi.
Dernière question, vous avez lancé votre livre à Paris, vous avez lancé votre livre en Moldavie et à Bucarest aussi, et aussi pour le public francophone de Bucarest. Alors, quelle a été la réaction des lecteurs des trois zones, disons?
Pour commencer, je veux dire qu'une bonne nouvelle que j'ai eue maintenant, oui, dans les dernières semaines est qu'on prépare maintenant le lancement de ce livre en Italie, en italien. Et j'ai fini par avoir aussi une traduction en anglais. J'espère qu'on peut avoir une édition anglaise dans l'année prochaine. Les réactions que j'avais jusqu'à ce moment, bien sûr, sont un peu différentes. Pour le public moldave, c'est un sort de fierté que quelqu'un, à la fin, et quelqu'un qui n'est pas né là-bas, a trouvé que c'est important de réouvrir ce chapitre douloureux de leurs histoires et de faire une sorte de témoignage sur cet événement qui était vraiment très, très, très difficile pour nos grands-parents. De l'autre côté, en France, je trouve que c'est bien qu'on parle de ça parce que les gens connaissent très, très peu de choses, pas sur la Bessarabie, mais aussi sur la Roumanie en général, sur les pays de l'Est. Et je trouve que si on commence à parler, on comprend quelque chose, qu'on ne sont pas si différents tout à la fin. Et que par contre, nous ici, on était éduqués d'avoir beaucoup d'informations et de respect pour la société et les valeurs culturelles occidentales. Et je crois que c'est le temps que les Occidentaux essayent de connaître un peu plus ce qui se passe à côté d'eux, ici, en Europe.
Connaître nos racines, rendre hommage à nos proches, mais aussi et surtout prendre le temps de réfléchir davantage au destin de la Bessarabie. Cette région encore méconnue, dont l'histoire récente a bouleversé plusieurs générations. Voilà ce que propose le premier roman de Christian Mungiu. Ce livre est d'autant plus parlant à l'heure actuelle car la Bessarabie, actuelle République de Moldova, oscille toujours entre l'Occident et la Russie. Les nouvelles générations de Moldaves sont encore bilingues, parlant le roumain et le russe. Et les récents événements, comme le référendum sur l'adhésion à l'Union européenne ou les élections présidentielles en République de Moldova et la guerre en Ukraine voisine, sont venus raviver les craintes de revivre l'ultimatum de 1940, encore très vivace dans la mémoire collective. L'Orient ou l'Occident, que choisir ? Pour les Moldaves, le débat reste plus ouvert que jamais.